Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on donne 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Suis-je la seule non-frontiste à avoir pris avec le sourire la petite sauterie organisée samedi par Robert Ménard à Béziers ? Au cas où l'info serait passée entre les mailles de votre smartphone, le maire FN de cette ville de l'Hérault a donc décidé de rebaptiser la rue du 19 mars 62, date anniversaire des accords d'Évian mettant un terme à la guerre d'Algérie, en rue du commandant Élie de Noy de Saint-Marc, l'un des acteurs du putsch des généraux à Alger en 61. Non, je ne suis pas une nostalgique de l'Algérie française, que personne ne se méprenne, mais ce genre de grosse erreur de communication dans la campagne de dédiabolisation du Front National ne peut, je l'espère, qu'entacher une réputation que Marine Le Pen rêve immaculée. Tout comme les tweets haineux de jeunes candidats angevins bleu marine, tout comme l'armement en grande pompe de la police municipale de Béziers, tout comme cet élu frontiste du Mont qui compare homosexualité et zoophilie. Sur Radio Campus Angers, nous ne nous lasserons pas de vous le répéter. Le premier tour des élections départementales, c'est dimanche prochain, le 22 mars. Le 22 mars, hein, pas le 21 avril.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez Kyle Eastwood, le contrebassiste de jazz, est en concert au Quai mercredi. En milieu d'émission, c'est Yann qui balancera ses torpilles et en toute fin de sous-marin, Charlotte nous livrera son billet sportif. Mais d'abord, deux mois après les attentats, l'association Coexister a été nommée lauréate du grand projet présidentiel la semaine passée. Où en est le dialogue entre les religions ? On en parle tout de suite.
Cette reconnaissance que nous recevons aujourd'hui, c'est un formidable engagement à poursuivre notre action, bien sûr, mais aussi un vrai message de soutien à tous ceux qui, au quotidien, veulent faire avancer ensemble les valeurs fondamentales de la République avec nous. Merci beaucoup.
Extrait du discours de remerciement de mardi dernier à l'Élysée, quand l'association Coexister a été nommée grand projet présidentiel. Il y a moins d'une semaine, donc, dans le cadre du programme La France s'engage. La France s'engage, en fait, c'est un fonds de 50 millions d'euros consacré à l'économie sociale et solidaire. Il y avait 400 dossiers au départ, 30 finalistes et Coexister et lauréat. Bonjour Christophe Cadieu.
Bonjour.
Vous êtes président du groupe Coexister à Angers et avec Adrien, on va donc vous poser quelques questions. Alors comment ça va depuis le 10 mars et cette annonce ? Comment concrètement vous êtes là, une semaine après cette annonce ?
À titre personnel, ça me fait très très chaud au cœur d'être présent sur les ondes de Radio Campus Angers. L'année où vous fêtez vos 10 ans, bravo aux manettes, pour avoir été présent quasiment dès le départ de cette aventure-là aussi. Eh ben, une semaine après être lauréat, dans l'euphorie, mais sans plus, en fait, parce que le travail ne manque pas. On a 15 demandes de sensibilisation par semaine. Les sensibilisations, c'est quand on va en milieu scolaire, associatif, universitaire, et on aimerait plus entrepreneurial également. Et puis, voilà, à part, comme je dis souvent, à part ce qui ne va pas, tout va très bien.
Adrien ?
Donc, vous avez été lauréat cette année. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce projet ? C'est juste amener quelque chose ou vous donner plus de visibilité ?
Alors, très concrètement, c'est le travail de 6 années d'existence de l'association Coexister qui sont félicitées. Et puis, bien évidemment, c'est plutôt un tremplin vers les 5-6 prochaines années à venir. Donc concrètement, pour l'instant, je n'ai pas encore touché l'argent présidentiel. Hein, voilà, je suis navré, je ne suis pas venu avec des cadeaux pour tout le monde qui seraient dédiés à ça. Mais ça va être beaucoup de reconnaissance aussi auprès des institutions, et notamment institutions publiques, que notre message peut être une source d'inspiration et de solution.
On va donc parler de ce message, on va revenir sur Coexister, c'est une asso qui est donc née il y a 6 ans, vous venez de le dire, Coexister c'est un mouvement interreligieux de jeunes. Quel message concret, quel objectif initial ?
Alors, pour reprendre dans la présentation ici ce soir, on ne fait pas de l'entre-religion, c'est de l'entre-conviction. Alors vous allez me dire, on joue sur les mots, et pourtant on accueille toutes les convictions profondes, du moment qu'elles sont sincères et ouvertes au dialogue.
Même des personnes qui seraient athées ou agnostiques.
En particulier, celles-là. Leur présence est essentielle. Si on ne voit que les symboles sur notre logo, on ne lit pas un mot, on voit des symboles. Et on a changé de logo il y a moins d'un mois pour l'adapter, une nouvelle charte graphique, mais aussi pour dire que le fond ne change pas, mais comment lier encore plus, notamment ces personnes qui ont défendu les valeurs de la laïcité depuis 150 ans, 200 ans, de la liberté, égalité, fraternité, et qui pourtant ne se retrouvent pas dans un message où l'accueil de l'interconvictionnel puisse prendre part.
Donc, via ce grand projet présidentiel, on parle de projet innovant socialement. Qu'est-ce que veut dire l'innovation sociale ?
L'innovation sociale, c'est comment on peut trouver des solutions aux problèmes et comment, ensemble, on peut construire localement. C'est ça l'aspect social. C'est que ça a un intérêt pour le bien commun, ce qu'on fait. Ça a un intérêt pour les membres à titre individuel qui s'engagent, comme n'importe quelle association. Je suppose que vous, en tant que bénévole ici, vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites et que ça se ressent aussi dans vos actions. Et que vous œuvrez aussi, il faut le rappeler, pour la citoyenneté. C'était l'introduction de départ avec laquelle je soutiens complètement les propos. Vous œuvrez, c'est ça l'innovation sociale. Vous en faites, est-ce que tout le monde en fait ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que le fait qu'on soit labellisé par le président comme innovation sociale, je suis sûr que ça bouscule un paquet de gens interreligieux et économie sociale et solidaire. Oui, ça c'est sûr.
Alors sur votre site internet de Coexister, on peut lire « Avec la vente de prestations en sensibilisation et en formation » que vous avez évoqué tout à l'heure, Coexister réutilise ses excédents en investissement, en investissant sur un objet social précieux, le vivre ensemble. Concrètement, Christophe Cadieux, comment on investit sur le vivre ensemble ?
Très bonne question. La plupart des gens ne se la posent pas, celle-là. Oui, merci de donner la parole là-dessus. Très concrètement, c'est le fait qu'on puisse avoir du financement. Là, cet après-midi, l'équipe revient de Cholet. Mercredi, on va à Châtellerault. Cet argent qui est en plus des dépenses qu'on a permet, par exemple, à Angers d'envisager qu'on ait un local indépendant de toute communauté où on puisse accueillir les gens.
Parce qu'actuellement, vous êtes où ?
On est sans local fixe. Le groupe à Angers s'est constitué il y a 3 ans autour d'étudiantes et d'étudiants de l'Université catholique, revenus de Ecclesia Campus, ce grand forum des chrétiens en grandes écoles qui avait lieu à Rennes il y a 3 ans et dont les rencontres nationales auront lieu à Angers en 2016. Et très concrètement, la base était à l'aumônerie ici, à quelques mètres du studio. Et pourtant, on a fait le choix, très clairement, de pouvoir rejoindre des athées ou des agnostiques, si besoin j'expliquerai le mot agnostique, qui n'est pas le plus simple à comprendre, parce qu'on ne l'utilise pas au quotidien. Voilà. Et puis,
Des personnes qui ne savent pas, qui croient ou ne savent pas.
En tout cas, qui n'ont pas la connaissance. Ça vient de gnose en grec, la connaissance. Qui ne font pas le choix d'ignorer, mais qui, si on leur pose la question, ne sont pas liés à une religion, mais peuvent croire en une divinité unique ou plurielle. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça pourrait être aussi d'avoir la possibilité d'investir sur le vivre ensemble des matériaux très concrets, d'outils. Par exemple, on a été faire des guirlandes de cœur en début d'année. On a revendiqué des attentats d'amour. Je le lis comme tel, ça choque les gens. Mais on a fait des guirlandes de cœur pour dire aux musulmans, aux musulmanes, sur les mosquées, aux synagogues, pour les juifs et les juifs. On est ensemble, on vous aime, on ne fait pas d'amalgame. Ça, c'est un petit coup, c'est tout bête, mais l'impact reçu d'amour est juste essentiel.
Dans l'association, vous créez des espaces de discussion, des débats. Et reste-t-il des sujets tabous, comme le conflit israélo-palestinien ou la représentation du prophète Mahomet ?
Non, il n'y a pas de tabou, notamment quand on va en sensibilisation. C'est des temps où on ouvre la parole. On met des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Bon, ça fait philosophe de le dire comme ça, mais en même temps, les gens ont besoin d'espace. Et de débat, je ne suis pas persuadé. En tout cas, on discute. Parce que les convictions, on n'en débat pas. Ce qui fait que chacun autour de cette table, et derrière son poste ou derrière son ordinateur, nous écoutant ce soir, a fait le choix, voilà, ou en tout cas toutes les conditions qui font qu'aujourd'hui, tu crois dans ce que tu crois là actuellement, à ce moment-là précis, ne sont pas les mêmes que celles dans 10 minutes, dans 15 minutes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fondé, mais ça peut évoluer. Par contre, on n'en débat pas. C'est ce que tu crois profondément. C'est comme ton identité. Elle est, point. Donc, dans les questions tabous, Israël, Palestine, non. Mais c'est bien souvent le premier sujet dont on nous parle. Et pour la plupart des bénévoles, on n'est pas spécialiste en géostratégie, en théologie, voilà, en politique extérieure. Mais là où ça me choque, c'est quand on ne pense qu'à travers ce prisme-là, parce que ça oublie complètement la Centrafrique, ou les Rohingyas en Birmanie, par exemple. Enfin, voilà, tous ces conflits qui sont aussi essentiels, et pourtant qui font que ça nous touche ici et maintenant. Mais moi, je travaille à Angers, à faire en sorte que les gens à Angers, et dans l'Ouest, là, ici, maintenant, voilà, ça s'arrange pour vivre ensemble. En ayant en tête cette solidarité internationale, hein. Bien sûr, je ne remets pas du tout ça en cause, mais on est d'accord qu'on n'est pas d'accord sur plein de sujets à coexister. Eh bien, la plupart des gens ne le sont pas en dehors de chez nous, et ça crée des tensions à ce moment-là.
L'année dernière, Coexister, vous avez lancé le premier épisode de l'Interface Tour. Le principe est simple, 4 ou 5 jeunes de convictions religieuses différentes qui partent faire le tour du monde à la recherche de principes interreligieux. Alors, est-ce que la démarche n'est pas un peu cosmétique? Ou alors, est-ce qu'elle a vraiment eu des retombées concrètement?
Concrètement, c'est donc effectivement un projet pilote. Il y a déjà une deuxième équipe qui est constituée. Ce coup-ci, ce sont 3 jeunes femmes et un jeune homme qui partiront en juin prochain pour une dizaine de mois. 30 pays, dont seulement 10 en commun avec la première équipe qui est partie 10 mois, 5 garçons, voilà, 50 pays. Donc 435 initiatives rencontrées voilà, dans le monde par le premier tour. Ben, on voit bien que c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg, donc c'est là où on pourrait dire que c'est un aspect cosmétique, voilà, superficiel. Et pourtant, c'est dans les aspects cosmétiques purs que les vrais débats ont eu lieu dans l'équipe, c'est à partir de shampoing, voilà, c'est mon shampoing, c'est pas mon shampoing. Très décevant de se dire, ils ont eu que ça comme débat dans l'équipe, finalement ils ont résolu à peu près tout le reste. Ensemble, ils sont partis comme amis, ils sont revenus comme frères, pas parce qu'ils sont tous devenus curés et tout ça, mais dans la fraternité, ils se sont rapprochés nettement. Voilà. Les initiatives qu'ils ont rencontrées, 435 dont je parlais, il y en a certaines qu'on veut importer. On préfère importer des solutions plutôt que des conflits, voilà, qui sont plutôt des conflits politiques et pas religieux, pour le coup. Et ces initiatives, on va tenter de les mettre en place auprès de lobbying, et c'est pour ça que la France s'engage nous permettra sûrement d'avoir une main un peu plus affirmée, en tout cas un bras qui nous soutiendra voilà, pour monter ces actions. Je pense à la longue nuit des religions, la longue nuit des convictions, voilà, qui est organisée à Berlin, voilà, parmi d'autres. Voilà, mais chaque groupe peut s'inspirer également de ce qui se fait voilà, parmi les autres initiatives. Et puis, le 22 janvier dernier, notre actualité devait être la sortie du livre, premier livre des 5, voilà, qui s'appelle « Tous les chemins mènent à l'autre », dans toutes les bonnes librairies et auprès de Coexister, si vous le souhaitez. Ça nous aide aussi à financer nos actions locales. Voilà, c'est comment la perception d'un des 5 partis autour du monde et comment ce voyage international, cette équipe de 5, tous les partenaires financiers, économiques, intellectuels, moraux, travaillent tous ensemble à promouvoir ce vivre ensemble, mais juste à vivre ensemble. En fait, comment les gens ont des solutions dans le monde, comment des femmes au Kenya sont chrétiennes, musulmanes, animistes, jeunes mères célibataires et ont une crèche collective. Parce qu'on sait très bien que jeunes mères célibataires, c'est pas facile comme combat. En Afrique de l'Est, ça ne l'est pas plus qu'ailleurs, mais elles ont des solutions. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui serait tout à fait envisageable. Dans les 15 qui ont été récompensés, il y a le réseau Montmartre, voilà, qui sont des crèches privées artistiques voilà, auxquelles je pense. Mais voilà, ça c'est très clairement envisageable, là, localement, de créer une crèche. La presse en faisait écho encore il y a quelques jours, la presse locale sur des crèches privées à Angers, il en manque...
On va poursuivre cette discussion, Christophe Cadieu, juste après Vagina Town avec Ecstasy. J'en profite pour dire que Vagina Town fait partie de cette superbe affiche des 10 ans de Radio Campus Angers.
We're gonna get some ecstasy.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
116 actes anti-musulmans depuis les attaques de Charlie Hebdo, c'est quand même quelque chose de très grave. D'autant plus que l'année dernière, en 2014, durant tout le mois de janvier, nous avons eu uniquement 14 actes. Donc une implosion de 110% d'actes islamophobes.
Un extrait d'une interview de l'AFP TV. Ce soir, nous sommes avec Christophe Cadieu de l'association Coexister, un mouvement interreligieux de jeunes. Alors, le collectif contre l'islamophobie a donc recensé une augmentation des actes islamophobes en janvier 2015. Alors là, on entend 110. Moi, j'avais 70% de hausse. Selon le Conseil représentatif des institutions juives de France, le nombre d'actes antisémites a doublé en 2014 par rapport à 2013 en France. Comment est-ce qu'on explique cette hausse et vraiment concrètement, est-ce que l'esprit du 11 janvier, il a déjà fait pchit?
Oh, je m'attendais pas à celle-là. Très belle référence sur le fait de faire pchit. Alors concrètement, pour expliquer la hausse, il y a sûrement des gens qui se libèrent, oui, clairement. Rien qu'à Angers, on en a compté 6 en janvier, dont on n'a jamais parlé dans aucune forme de presse écrite, radio, télévisée. 4 graffitis et 2 agressions dans les transports en commun ou dans des lieux publics. 2 jeunes, voilà, les 2 jeunes femmes musulmanes, par exemple, à qui on demande de retirer le voile, ou à qui on ne leur demande pas, mais on le fait quand même. Et puis 4 tags voilà, sur des lieux, notamment tout proche ici, par exemple, d'éducation. Donc oui, voilà, ces personnes s'autorisent sûrement, dans un élan de terrorisme, d'actes de barbarie. Bah, très bien, allons-y, moi aussi je jette ma pierre et voilà. Et puis il y a aussi le fait que vraisemblablement des personnes se disent c'est peut-être le moment que je m'autorise à en parler, que moi aussi ça m'est arrivé. Il y a de grandes chances que il n'y ait pas plus, ça va être très choquant ce que je veux dire, mais il n'y a pas plus d'agressions au fil des années. C'est juste qu'il y a plus de recensement et de prise en compte voilà, d'actes. Parce que la qualification d'acte islamophobe est très variée. On voit bien entre une insulte.
On va pas en D'ailleurs, faire, elle n'a pas d'existence juridique.
Non, elle n'a pas d'existence juridique. Donc, est-ce que ça, par exemple, c'est pas un acte islamophobe, le fait que voilà, les gens ne puissent pas avoir une définition. Voilà, l'islamophobie, c'est pas juste la peur des musulmans ou la peur de l'islam, c'est plus un rejet. Voilà, c'est pas. Mais et pareil pour les actes anti-judaïsme. Voilà, y a sûrement de la méconnaissance. En tout cas, ça vient vraiment beaucoup. Moi, je vois que islamophobie, anti-judaïsme, et c'est mon opinion toute personnelle, c'est quelque chose que j'essaie de développer là intellectuellement de plus en plus pour affiner, mais c'est les deux mêmes faces d'une pièce. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est que d'un côté, on ne peut pas dire on organise une manifestation contre l'islamophobie à Angers un samedi après-midi. Et s'étonner qu'il n'y ait aucun juif, parce qu'on ne sait pas qu'ils ne peuvent pas se déplacer du vendredi au samedi, puisque c'est Shabbat. Voilà. Et ça, ça me navre que seulement une centaine de familles juives vivent sur le département d'Angers, voilà, sur le département de Maine-et-Loire, et soient liées à la synagogue, parce que les gens grandissent sans avoir une amie, un ami, un pote, quelqu'un dans leur entourage, auprès de qui ils puissent être invités à une bar mitzvah, à un shabbat, à Kippour, enfin bref, voilà, l'ensemble des fêtes. Et donc ça crée une barrière intellectuelle où on envisage que les juifs internationaux comme référence.
Les catholiques sont donc visés par ces actes. Y reste-t-il des différences marquées entre les différentes religions en France ?
Alors, en France, oui, il y a sûrement des différences, oui, bien sûr. Est-ce que c'est nécessaire de l'évoquer comme tel? Ça crée une compétition dans les victimes qui, moi, me paraît tout à fait déplacée. Et...
Non, il ne s'agit pas d'une compétition dans les victimes, il s'agit de savoir des religions qui sont encore en retard dans l'acceptation, voilà, tout simplement. Qui sont plus ou moins encore acceptés en France aujourd'hui. Ah, on vient de citer les actes islamophobes et antisémites.
Oui, il y a encore des gens qui pensent que les musulmanes et les musulmans vont rentrer un jour dans leur pays. Le problème, c'est que ces gens vivent ici, et leur pays, c'est ici. Tout ça, tout comme les juifs de France. Pour contredire des dirigeants internationaux, moi, je dis aux juifs d'Angers, votre terre, votre maison, c'est ici. C'est que sans les juifs à Angers, c'est pas Angers. Il y aura quelque chose de... Voilà. Les juifs sont les frères et sœurs aînés dans la foi des chrétiens qui oublient que depuis 50 ans, le Vatican a reconnu avec le Concile Vatican II que les juifs et tous les juifs n'étaient pas des déicides. Ils n'avaient pas tué Dieu. Voilà, en tuant Jésus. Y a encore des gens qui, effectivement, sont en retard dans l'acceptation de ces idées-là. Et c'est à ces gens-là que je pense quand je vois des actes de graffiti ici, ou de tronçonnage d'arbres également dans la région.
Comment est-ce que vous avez reçu la tribune d'Abdelrahman Azouzi, le chef du service d'urologie au CHU d'Angers, ancien conseiller municipal qui a démissionné le mois dernier, via donc une tribune publiée dans le Monde des religions. Voici un très court extrait, vous pouvez aller la lire. Elle est très longue et... Ça va refléter ce qui est dit. Insidieusement, la France est probablement devenue la nation démocratique la plus islamophobe du monde. Comment est-ce que vous avez lu cette tribune? Comment vous l'avez reçue à coexister?
À titre personnel, je l'ai reçue Parce qu'en fait, on m'a demandé mon avis. Un collègue
quel regard vous portez, ouais.
M'a demandé mon avis là-dessus. Je lui ai dit, j'ai pas d'avis, je l'ai pas encore lu. Donc voilà. Et, je me suis empressé de lire, d'en discuter avec le président national, qui lui l'avait déjà lu parce qu'il est fan du monde des religions comme autre source d'information. Et ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est qu'un média puisse encore publier une aussi longue tribune. Ça, c'est le premier truc. C'est
mais le sur média... le contenu, puisque je regarde le chronomètre passé, Christophe, je me permets de...
Sur le fond, est-ce que ce monsieur dit des vérités qui dérangent ? Sûrement. Est-ce qu'il outrepasse son rôle individuel ? Sûrement aussi. Est-ce que ça l'amuse d'avoir mis un pavé dans la mare ? Il y a de grandes chances également. Pour en avoir discuté avec lui et avec son entourage, ce monsieur n'est pas un radical, ce monsieur n'est pas un Tariq Ramadan angevin, qu'on se le dise. Et si c'était le cas, il aurait quand même le droit de dire ce qu'il pense.
Quelles influences avez-vous pu constater depuis votre existence ? Que ce soit sur Angers, sur le territoire angevin, ou au sein de l'association avec les personnes qui participent au débat, discussion.
Des pistes d'amélioration ou des choses qui seraient moins bien passées du coup. Le fait que depuis 3 ans, en me baladant sur les différents campus avec un suite coexister, je peux faire témoigner par ma bouche un jeune qui m'a dit « je me sens mieux accepté ». En tout cas, en tant que juif, étudiant à Angers, je peux me balader sur le campus en ayant la tête haute. Juste ça, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré 10 minutes. Parce que c'est le genre de retour auquel je ne m'attendais pas. Que les gens me disent je suis musulmane et ton regard sur moi quand tu m'as donné un tract dans le bus, parce que je fais ça, moi je file des tracts aux gens, je parle aux gens. Voilà, je lui dis salut, je pense que c'est une asso qui est trop pour toi. Voilà, elle avait un foulard, elle avait des écouteurs sous le foulard, ça m'a paru vraiment excellent. Voilà, je me suis dit tiens, on est peut-être en train d'écouter la même musique. Et voilà, et je pouvais la considérer comme ma sœur en humanité. Je lui ai filé le tract, je lui ai dit si je me suis trompé, tu le files à quelqu'un d'autre, et sinon, on se voit à la prochaine réunion. À la réunion d'après, j'attendais une association comme vous. Et en devenant ami Facebook, je découvre que notre logo est souvent inspiré par d'autres aussi. Voilà, se rapprochant, elle l'avait déjà publié il y a 3 ans, un coexiste vaguement similaire au nôtre. Tu fais, il y a des petites choses comme ça, des petits pas. C'est la politique des petits pas, ce qu'on fait. On sème des graines et on voit bien que ceux qui sont heureux, c'est ceux qui s'aiment.
Merci beaucoup Christophe Cadieux d'avoir été dans le sous-marin. Toutes les infos, c'est sur le www.coexister.fr et puis on peut vous croiser donc sur les campus à droite à gauche.
Oui, et je serai durant la semaine d'anniversaire à titre personnel à vos côtés.
Très bien, merci beaucoup.
Yeah.
Alexander Ebert, Remember Her Out.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et c'est l'heure de retrouver la chronique Lance Torpille de Yann. Bonsoir Yann.
Bonsoir. Ce soir, je ne parlerai pas de Zlatan Ibrahimovic. Je l'avoue, je connais assez peu de choses au football, je m'en intéresse rarement, mais là, pas moyen d'y échapper. Suite à la défaite face à Bordeaux, 3-2, le célèbre avant-centre suédois du PSG, torse-poil et téton apparent, s'en est pris à l'arbitre Lionel Jaffredo, coupable selon lui d'une erreur d'arbitrage. Pas facile à dire.
Pas facile à dire.
Mais plus malin encore, il s'en est pris à la France, je cite. « Cela fait 15 ans que je joue au foot et je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG. » Bien sûr, il a tenté de faire son mea culpa. Je tiens à m'excuser si des personnes se sont senties offensées. Offensées. Vous pouvez remarquer qu'il n'a pas dit « Je demande des excuses aux personnes que j'ai offensées. » Mais je tiens à m'excuser si des personnes se sont senties offensées. Je le précise, hein, je rajoute bien offensées.
Merci Yann.
Autant dire qu'il n'y a aucune excuse, mais quel véritable... Gros beauf ce Zlatan, mais bon, faut pas trop lui en vouloir, parce qu'entre le temps qu'il passe à s'entraîner, jouer au ballon et compter ses sous, ben, il ne le passe pas à réfléchir. Mais quand on gagne ce qu'il gagne pour taper dans un ballon, un minimum de respect doit être imposé. Et il sera quoi ce triste sire quand il ne sera plus qu'un souvenir médiatique ? Candidat de télé-réalité, popstar d'un tube d'été ou bien commentateur télé, parce que sorti du foot, il est quoi ? Il est qui Zlatan ? À vouloir glorifier un tel bonhomme, porté par les valeurs de la réussite individuelle et du fric, quel exemple mettons en avant aux yeux de notre jeunesse ? Comment ensuite reprocher à un jeune footballeur d'un petit club des propos injurieux à l'issue d'un match perdu ? N'y a-t-il pas des joueurs plus sympas, d'autres clubs plus admirables que le PSG et moins bourré de fric à mettre en avant ? N'y a-t-il pas des joueurs qui conservent encore un peu d'humilité, de respect des valeurs du sport ? Donc Ibra, merci, mais va te faire Zlatané.
Ah oui, on vous avait pas dit, Yann a été nommé créateur de Verbe par l'Académie française la semaine dernière. Bon, de quoi tu vas pas nous parler alors ?
Ce soir, je ne parlerai pas de la grève des médecins. Il est vrai qu'il n'est pas très facile d'être médecin de campagne et qu'en conséquence, la moindre loi qui vient le chatouiller finit par le gratouiller très fort, surtout quand la droite vient verser de l'alcool à 90 sur la plaie. Mais alors, pourquoi font-ils grève ces médecins ? Selon eux, le problème viendrait d'un manque de temps. Beaucoup de consultations dans la journée et pas de temps à consacrer aux problèmes administratifs. Tiens donc, mais avec un salaire moyen de 6000 euros mensuels, n'ont-ils pas les moyens d'embaucher des secrétaires ? La mise en place du tiers payant qui favoriserait l'accès aux soins pour les ménages les plus modestes et leur permettant de ne pas avancer d'argent serait donc un problème. N'est-ce pas la règle pour les pharmacies, pour les infirmières, pour beaucoup d'autres pays de l'Union européenne d'ailleurs ? D'un côté, les médecins veulent nous faire croire que leur raison d'être est le patient malade, mais au fond, leur objectif semble être de vouloir travailler en ville, si possible dans le sud, dans un beau cabinet, conduire une belle voiture de sport, partir en vacances l'été, l'hiver et à Pâques. Mais savent-ils que plus le gâteau est partagé, moins les parts sont grandes ? En France, en 2015, dans les rues, les nantis sont de sortie, mais les manifs des médecins et des notoires et des notaires ne font pas battre mon petit cœur rebelle. Insuffisance cardiaque, sans doute.
C'était la minute des magots hebdo de Yann.
Exactement.
Vas-tu t'en sortir, Yann ?
Je sais pas, je bafouille beaucoup ce soir. Ce soir, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de Marine Le Pen. Je sais, on peut penser que je m'acharne, mais cette femme est un véritable sapeur-pompier pyromane. Vendredi, sur Europe 1, la présidente du Front National a à nouveau réaffirmé sa position sur le rétablissement de la peine de mort. Je cite « Un système pénal ne peut pas tenir sans la peine capitale. La disparition de la peine de mort a effondré l'échelle des peines. » Mais Marine, cette question a été tranchée depuis longtemps, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Revenir sur un tel sujet est un recul de civilisation et de la pure démago. Marine Le Pen, pour la 50 000e fois, les pays appliquant la peine de mort ont quasiment, sans exception, une criminalité bien plus importante que les pays abolitionnistes. Pour la 50 000e fois, la peine de mort étant définitive, il devient difficile de rectifier une erreur judiciaire. Pour finir, il y a un aspect que vous n'avez pas l'air d'avoir saisi, Marine Le Pen, mais il y a une sacrée différence entre un criminel commettant meurtre et autre abomination et un état de droit. Rendre la pareil revient à être exactement comme eux, des meurtriers. Si l'on doit rendre justice, même si là le mot vengeance serait plus approprié, à hauteur du mal, allons-nous torturer les tortionnaires, violer les violeurs, voire violer les enfants des violeurs d'enfants ? Doit-on se rabaisser au niveau des plus immondes pour punir ? Car ça sera avant tout nous-mêmes qui serons punis en devenant aussi ignobles que ceux qu'on appelle monstres. C'est toute la différence entre la moralité de ces criminels et la moralité d'une société. Si vous n'avez pas saisi cela, Marine Le Pen, c'est peut-être que vos valeurs et votre morale sont bien trop proches d'une époque qui n'existe plus. C'est tout pour moi pour ce soir et je vous dis donc à la semaine prochaine et d'ici là, restons unis et ne bafouillons plus.
Merci.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Mercredi, le jazzman Kyle Eastwood sera en concert au Quai à partir de 19h30. Oui, Kyle Eastwood comme Clint Eastwood, sauf que le fils d'eux ne fait pas dans le western mais dans la contrebasse. Antoine, qui parle très bien anglais, l'a eu au téléphone. Bonjour Kyle Eastwood, vous êtes un fameux contrebassiste de jazz et vous serez en concert au Quai à Angers mercredi. On va commencer par le début, comment est-ce que vous êtes tombé dans le jazz et quels sont les premiers musiciens qui vous ont marqué ?
Mes parents ont toujours adoré le jazz, alors il y avait toujours des disques qui traînaient à la maison. Et je dirais que les premiers que j'ai vraiment écoutés, c'était Count Basie, Duke Ellington, Stan Getz et Miles Davis, bien sûr.
Et jouer de la contrebasse, comment est-ce que ça vous est venu ?
Au tout début,
j'ai commencé par le piano et je voulais vraiment faire de la batterie. Mais j'ai pas réussi à convaincre ma mère de m'acheter une batterie. J'ai choisi une contrebasse. Et c'est devenu très vite naturel d'en jouer. J'ai appris tout seul avec ce que je connaissais déjà du piano, du solfège.
Ça vous arrive toujours de jouer au piano d'ailleurs ?
Oui, c'est avec le piano que je compose mes morceaux en général. Plus souvent au piano qu'avec ma contrebasse finalement.
Votre premier album est paru en 1998 et au fur et à mesure de votre discographie, on s'aperçoit que votre univers musical dépasse largement les frontières du jazz. Vous puisez dans des rythmes africains, dans la musique moyenne-orientale. Comment est-ce que vous vous abreuvez de toutes ces différentes sonorités ?
J'écoute toujours de la nouvelle musique et j'apprécie plein de styles différents, pas seulement du jazz. J'écoute la musique d'autres cultures, du monde entier. Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui attire mon oreille et se retrouve dans mes propres compositions.
Allez, on va rêver un petit peu maintenant. Si vous pouviez jouer avec n'importe quel musicien, qu'il soit vivant ou mort, qui choisiriez-vous ?
Il y en a tellement.
Je pourrais vous répondre Stevie Wonder. Il est vivant et j'aimerais beaucoup jouer avec lui. Et
bien sûr, ça devait être amusant de jouer avec Miles Davis ou John Coltrane. Mais la liste est bien trop longue.
Vous vivez à Paris depuis une dizaine d'années, vous avez consacré un album à la ville en 2005, ça s'appelait Paris Blue. Qu'est-ce que vous trouvez de si inspirant à Paris que vous ne trouvez pas aux États-Unis ?
Il y a beaucoup de très bons musiciens à Paris.
J'ai l'impression que les Français sont très amateurs de jazz et de plein de styles différents. Ils sont très ouverts d'esprit.
Et la musique que j'ai pu écouter en France et en Europe a vraiment eu une influence sur moi.
Mais il y a aussi plein d'excellents musiciens aux États-Unis. New York me manque parfois, mais
je préfère Paris.
Vous n'avez pas l'impression d'appartenir à un seul endroit ?
Non, j'aime bien bouger un peu. J'adore voyager, de toute façon, il le faut quand on est musicien. C'est toujours enrichissant, ça permet de rencontrer de nouveaux musiciens et un tas de musiques différentes, partout dans le monde.
En parallèle de vos albums studio, vous avez composé de nombreuses bandes originales de films, notamment pour votre père. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice ? En quoi est-ce que c'est différent que de composer vos propres albums ?
C'est vraiment différent. Quand on compose pour un film, il faut accompagner ce qui se déroule à l'écran. Il y a plein de règles, de limites, des codes qu'il faut suivre avec une bande originale. Alors qu'avec le jazz, on a plus la liberté de faire ce qu'on veut. Mais ce sont deux défis intéressants. La musique de film me force à dépasser ce qui me vient naturellement pour être au service d'un projet.
Et quand vous composez vos propres morceaux, est-ce qu'il vous arrive d'imaginer un petit scénario mental pour l'accompagner ?
Oui, parfois. On m'a déjà dit que ma musique était assez visuelle, alors je sais pas. Peut-être que c'est inconscient. J'aime beaucoup le cinéma en tout cas.
En parlant de cinéma, à partir de quel moment est-ce qu'on vous a considéré comme Kyle Eastwood le musicien plutôt que Kyle Eastwood le fils de ?
Eh bien, je suis un musicien professionnel depuis maintenant quoi ? Presque 25 ans. Et quand j'ai commencé à gagner le respect des musiciens que je respectais, ça m'a rendu légitime en quelque sorte. Surtout que j'ai eu la chance de jouer avec d'excellents musiciens. Alors j'essaye de pas trop me soucier de ces histoires de fils de...
Vous sortez un nouvel album en avril prochain, Time Pieces. Que pouvez-vous d'ores et déjà nous dire sur cet opus ?
Oui, c'est une sorte de retour aux racines du jazz que j'ai toujours apprécié. Celui des années 50 et 60, par exemple, qui m'a beaucoup influencé. La période Blue Note, notamment, l'époque où mes disques préférés ont vu le jour. Donc il y a ça, et on va aussi y retrouver de nouvelles compositions en collaboration avec le groupe qui m'accompagne depuis quelques années maintenant.
Et justement, dans ce groupe, on retrouve vos fidèles Andrew McCormack au piano, Quentin Collins à la trompette, mais également de nouvelles têtes, Brandon Allen au saxophone et Ernesto Simpson à la batterie. Comment est-ce que ce quintet fait de vieux et de nouveaux amis a trouvé son équilibre ?
Ça fonctionne bien, je pense même qu'on n'a jamais aussi bien joué ensemble. Ernesto est un excellent batteur, il apporte beaucoup d'énergie et d'esprit au groupe.
Vous jouez à Angers mercredi prochain, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Est-ce qu'on pourra entendre des morceaux du nouvel album ?
Oui, ce sera un mélange de morceaux du nouvel album et aussi des anciens. Et peut-être même quelques musiques de films aussi.
Si on n'est pas particulièrement connaisseur de jazz, est-ce qu'on peut quand même apprécier un concert de Kyle Eastwood ?
Oui, je pense. C'est un mélange de plein d'autres genres musicaux, donc je pense que les gens sauront apprécier ma musique, même sans être un grand fan de jazz.
Merci, Kyle Eastwood.
Ok, thank you very much.
Kyle Eastwood est donc mercredi en concert au Quai à partir de 19h30. Voici un avant-goût avec Mistral. Thank you. Hop, 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 on s'échauffe, on retrouve Charlotte pour le billet sportif du lundi soir. Salut Charlotte.
Salut.
Alors, comme ça, tu as eu du mal à trouver l'inspiration.
Ouais, c'est vrai que c'était dur. Pas d'inspiration, le vide, le néant. Cette semaine, je n'avais plus envie de parler de sport, comme si une partie de moi disait stop. Et pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que je suis triste. Je suis triste d'avoir perdu des sportifs qui m'ont tant fait rêver. Des sportifs qui ont porté haut les couleurs de la France, passant par des échecs, des victoires, des déboires personnels même, mais qui nous donnaient toujours de l'espoir. Ils savaient manier le suspense avec brio, parfois, enfin souvent à leurs dépens, mais quel plaisir ! Quel plaisir de suivre leurs exploits, même leurs échecs, parce qu'on savait toujours qu'ils pouvaient se relever coûte que coûte. Alors oui, pour être honnête, les défaites et les victoires de Florence Artaud, je ne les ai pas connues. Elle a gagné la Route du Rhum, première et unique femme à l'avoir gagnée, pour le rappel, en 1990, et je n'étais pas née. Mais pour moi, et pour beaucoup, Florence Artaud était indissociable de cette victoire. Florence Artaud était synonyme de grande navigatrice, et lorsque j'entendais son nom, je pensais inévitablement que c'était une sportive extraordinaire. Pour Camille Muffat et Alexis Vastine, c'est autre chose. J'ai vu les trois médailles olympiques en 2012 de Camille Muffat, ses titres de championne du monde ou d'Europe et ses titres au championnat de France. J'ai vu tout ça, j'ai suivi tout ça, avec un plaisir immense et un suspense sans nom, notamment aux Jeux de Londres. J'ai vu les deux défaites injustes d'Alexis Vastine aux JO de Pékin puis de Londres. J'ai vu, comme beaucoup, ses pleurs après la sentence. J'ai, comme les spectateurs, pensé qu'il avait gagné à Londres, que ça y est, enfin la chance allait être de son côté. Et comme eux, comme Alexis Vastine, j'ai déchanté, pensant que le destin s'acharnait inévitablement comme un pied de nez à la vie, comme s'il nous disait que personne n'en est véritablement le maître. C'est en même temps ce qui fait la force des JO. On peut voir des sports qui ne sont pas dans nos habitudes que l'on ne regarde, même jamais, il faut le dire, dans d'autres circonstances. On peut apprendre à connaître des sportifs qui brillent dans leurs sports respectifs, sans forcément avoir entendu parler d'eux. Mais surtout, on peut apprécier la beauté du sport, les émotions que le sport nous procure, de la joie pour Camille Muffat à la peine d'Alexis Vastine. C'est vrai que j'aurais pu vous parler du match extraordinaire du PSG face à Chelsea, match qui leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. J'aurais pu vous parler de la victoire de la France dans le tournoi Destination 29-0 contre l'Italie, mais non, je n'en avais vraiment pas envie. Ce n'est pas ce que je retiens de cette semaine. Ce que je retiens, c'est la tristesse, mais aussi la colère qui m'a frappée lorsque beaucoup trop de polémiques sont entrées en jeu. Lorsqu'on a mis en avant la critique de la télé-réalité, la critique du divertissement et même la critique de ces sportifs qui se croyaient soi-disant invincibles. Ce qui m'a énervé, c'est ce duplex de Louis Baudin, comme si le respect avait été oublié, comme si ce qu'il avait vécu là-bas n'était finalement pas grand-chose, comme si le malheur avait laissé place à l'exclusivité pitoyable de ces chaînes de télé. Je suis triste et en colère. Parce que pour Alexis, Florence et Camille, la mort n'a pas pris de gants. Elle les a mis KO et nous aussi par la même occasion, nous laissant orphelins de trois sportifs extraordinaires qui nous avaient appris à gagner, mais aussi à perdre. Hissant la grand voile vers ce grand plongeon dont personne ne refait surface, ils manqueront terriblement au sport français. Alors oui, aujourd'hui j'ai envie de pleurer parce que je suis comme ça, parce que la tristesse est beaucoup trop grande et parce que ce sont des champions qui m'ont donné tant d'émotions et qui malheureusement continuent à m'en donner.
Merci Charlotte.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est l'ouverture du Festival des Trois Coups à Luco. C'était à 19h30 avec Octave, mais ça me permet de vous dire que c'est parti pour la saison du Festival étudiant à Angers. Rendez-vous sur le podcast de l'Artichaut qui était consacré à ça vendredi dernier. Le programme complet pour les Trois Coups, c'est sur le www.letroiscoups.fr. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter tous les jeudis soirs. La mine fait la part belle au rap d'ici et d'ailleurs. La West Section nous déniche de jolies perles locales et nationales, extrait de la chronique Tu creuses encore.
On vient de s'écouter la voix de la résistance, donc de la plume. Sur Insurrection avant, c'était un MC Pounce, pas le droit, sur son maxi Chienne d'errance. Avant c'était Dernier Rempart et l'Alerte Rouge en featuring Galérien en guérilla sur la mixtape Insurrection. Juste avant, Session Freestyle, là ce soir c'est Freestyle, la plume est Jon. Sur le petit maxi On dit quoi de la plume, petit maxi avant
bonne
son
mixtape,
album.
Bonne mixtape, d'ailleurs c'est téléchargeable gratuitement sur Internet.
Fait de petites pépites. Juste avant, Sticky Snake, un solo climat délétère sur son projet Boycott les arrivistes. À préciser qu'il y a le 2 qui arrive là, donc ça mettra le temps que ça mettra, mais je pense que ce sera du lourd, comme
yes.
Le premier.
Et oui,
et voilà.
Sticky Snake.
Voilà
et d'ailleurs, big up à la clique, tous ceux que, tu vois, parce qu'il y a ceux qui ont le micro et il y a ceux qui, qui sont dans les camtars, qui font les t-shirts, big up à Fax, big up à
Gwendal. Ouais,
ils sont tous une bonne clique.
Gwendal qui organise aussi, tu vois,
les orgas, la logistique.
Qui sont sur la compile d'ailleurs, ils organisent une compile en ce moment, Hip Hop avant tout, qui devrait sortir bientôt. Donc on vous tiendra au courant de toute façon.
Vous pouvez réécouter la totalité de la mine sur le www.radiocampusangers.com. Nous on se retrouve demain à 19h, on parlera performance et sexualité en vue de la conférence animée demain par Janine Mossus-Laveau entre 18h et 20h à la MSH sur le campus de Belbeil. Merci à Yann et à Charlotte, merci à Adrien, merci à Thomas pour la co-préparation de l'émission et à David pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.